Bon, bah, merci beaucoup d'abord de m'inviter à discuter. Merci beaucoup à Séverine pour ce chapitre très stimulant. Et puis merci beaucoup à vous tous là, vous avoir invité à déjeuner. C'est une belle occasion d'être tous ensemble. Alors, moi j'avais noté plein de choses et du coup j'en ai renoté plein d'autres. Donc bon. Donc je vais essayer de faire ça en. J'ouvre la discussion sur plusieurs points. Au moins une dizaine, mais c'est aussi. Je ne vais pas jusqu'au bout du raisonnement à chaque fois, parce que sinon on ne va pas s'en sortir, mais c'est l'idée d'ouvrir la discussion, et peut-être pour toi, Séverine, de voir comment tu peux encastrer ou encapsuler, comme on dit maintenant, ce chapitre dans des chapitres contextuels qui pourraient permettre de mieux comprendre, en tout cas, la dynamique de ton chapitre. Bon, d'abord, alors, moi, je ne suis pas une spécialiste du tout du déplacement, mais de ce que je vois maintenant, quand je travaille un peu là, sur les réfugiés syriens au Liban là, et en Jordanie, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur les catégories. Parce que là, les déplacés, les migrants forcés, les réfugiés, en fait, ce sont autant de statuts qui impliquent des processus, on va dire, et des trajectoires bien différenciées. Donc ça serait une première question. Je pense que tu ne pourras pas passer outre un espèce de travail un peu de ces catégories. Et notamment, moi, quand j'ai lu ton texte au départ, j'ai pensé tout de suite à la déportation. C'est-à-dire, ce qui se rapprochait le plus, en fait, de ce que tu racontais de ces déplacés, c'était la déportation dans l'autre sens, notamment sous haut contrôle judiciaire et criminel. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on est plutôt dans un contexte de criminalisation du déplacement que vraiment d'asile. Bon, tu expliques très bien dans son chapitre, c'est intéressant à lire le chapitre parce qu'il est très bien amené, un peu comme une enquête, un peu où on voit évoluer en fait les trajectoires des différents sujets, acteurs qui participent. C'est quand même intéressant de regarder quels sont réellement ces indicateurs de mesure de la violence au Mexique. Je crois qu'on ne peut pas parler de cette situation de 2006 à 2016 sans parler de 2001 et sans parler de 1994. On reviendra dessus. 1994, la signature de l'accord de libre-échange qui quand même réorganise complètement la relation entre le Mexique, les États-Unis et le Canada du point de vue commercial. Et cette guerre est quand même liée à un accord commercial. Et 2001, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, où les États-Unis, pour le dire rapidement, externalisent sa frontière au sud du Mexique avec un contrôle, comme elle le fait avec le Maroc, au sud du Maroc, notamment un contrôle des populations centra-américaines. Et on sait très bien, Virginie, elle a les chiffres dans un de ses articles, que la population centra-américaine guatémaltèque depuis 2001 a énormément augmenté aux États-Unis en termes de déplacement. Donc je pense qu'il faut quand même, à un moment donné, expliquer que ce troisième processus, qui est la guerre contre la drogue, fait partie de cette histoire-là, de ces deux autres processus. Alors je ne sais pas comment tu pourrais l'intégrer dans un chapitre, mais ça me paraît essentiel parce que d'un côté, on libéralise la circulation commerciale. C'est bien ça qui a impliqué aussi la guerre de la drogue. D'un autre côté, on durcit des frontières et on demande au Mexique de faire partie d'un espèce d'accord de contrôle des populations. Et en même temps, tout d'un coup, on a une guerre qui se passe à l'intérieur du territoire et on va demander aux États-Unis de recevoir en asile des Mexicains, finalement dans un contexte commercial et politique où c'est absolument impossible. Parce que qui est en guerre contre qui? Je pense que ça, c'est la question fondamentale que je me suis posée tout le temps, y compris puisque je vivais au Mexique pendant cette période. Je pense que c'était le Mexique qui est en guerre contre les États-Unis. Donc comment demander aux États-Unis d'accueillir des populations alors que c'est les États-Unis qui sont en guerre avec le Mexique, notamment autour de la drogue, puisque pratiquement la totalité du trafic de drogue part aux États-Unis. Donc là, cette circulation, elle est dans ce contexte-là. Je trouve qu'à un moment donné, je me dis qu'il faudrait poser le contexte, en tout cas. Alors moi, je trouve que c'est très intéressant parce que tu montres très bien dans ton travail qu'il y a une reconnaissance tout à fait floue, en fait, de la question des déplacés. Et on sait très bien que quand il y a des déplacés, en fait, il y en a plus à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Kamel, quand on était au Liban, là, me rappelait qu'il ne faut pas oublier que s'il y a des millions de Syriens en dehors de Syrie, il y a 7 millions de Syriens à l'intérieur de la Syrie qui ont été déplacés depuis ces dernières années. Donc il y a un déplacement de population à l'intérieur du pays qui en même temps s'articule avec une, on va dire, une dimension de circulation à l'intérieur du pays au Mexique qui est très commune. C'est-à-dire que les Mexicains circulent beaucoup à l'intérieur du pays. On voit par exemple en démographie, notamment les démographes ont très bien démontré, qu'un Mexicain peut vivre à peu près dans entre 15 et 30 lieux différents au cours de sa trajectoire. Donc la circulation, vivre, passer un temps à Zacatecas, revenir au Michoacán, aller à Mexico, puis à Oaxaca, puis chez la tante, la cousine, ça fait aussi partie des trajectoires des individus. Alors, là, ce qui est très bien, c'est que Séverine, tu fais une approche, ça n'a pas dû être évident, à la fois multisituée, avec des cas dont tu as essayé de suivre les parcours, avec ces déplacés internes, ces cas qui vont au Texas, les immobilisés à l'extérieur, que je trouve une très... Je pense que c'est vraiment une innovation scientifique hein, dans ton travail. Je pense que là, je trouve que c'est tout à fait riche. On voudrait juste savoir, si tu as un peu le temps, de nous expliquer comment tu as choisi ces personnes, c'est-à-dire comment ça s'est fait. Ce sont des rencontres, et puis après, il y a eu un effet de phénomène de boule de neige. Tu le dis dans ton texte, mais ça serait intéressant du point de vue méthodologique pour voir comment tu as travaillé. Et donc, tu nous expliques très bien, donc là, tu nous l'as réexpliqué, que ceux qui sont partis à l'étranger donc sont des personnes qui avaient de la trésorerie. Alors, quand tu dis l'étranger, c'est les États-Unis. Je voulais savoir si tu avais des données sur d'autres pays dans lesquels il serait allé, notamment au Canada ou...
Un Canada, un Espagne, dans mes cas de figure.
Dans tes cas de figure. Mais sur la population en général qui est partie à l'étranger.
Non, mais c'est des données à construire.
C'est des données à construire.
Il y a des demandes d'asile en Canada. Et,
voilà,
ça,
donc c'est par rapport aux demandes d'asile ou aux visas étudiants, ou, etc. Notamment les 4 étudiants mexicains l'année dernière qui avaient réclamé d'un statut de réfugié, par exemple, hein, qui étaient venus ici à Marseille Université. Donc c'est intéressant d'avoir un peu cette configuration. Alors, moi, je me suis posé la question, tu nous parles d'entrepreneurs et tu nous parles d'agriculteurs. Et est-ce que dans leur trajectoire, tu peux identifier si leur activité était soumise, en fait, ou était intégrée dans cette activité criminelle ? C'est-à-dire, sont-ils devenus des victimes de la criminalité parce qu'eux-mêmes participaient ou étaient insérés dans une chaîne d'activité où, à un moment donné ou à un autre, ils contribuaient à l'organisation de cette activité criminelle. Ce qui fait qu'on peut comprendre leur déplacement ou leur fuite de façon... Ils se sentaient menacés, mais ça serait quand même intéressant, vu le type d'activité. Je me suis demandé, les agriculteurs, c'est des producteurs d'oranges du Tamaulipas ou c'est des producteurs de drogue ?
Non, c'est...
Voilà, donc tu vois, pour comprendre un peu quelles étaient leur implication ou non dans cette chaîne d'organisation qui implique le déplacement. Donc tu expliques ensuite très très bien qu'il n'y a pas de reconnaissance de la guerre, donc il n'y a pas de reconnaissance de l'asile. Et je me disais, est-ce que tu connais les travaux un peu sur de Marie-Carmel Macias sur ces groupes de transfrontaliers qui montrent très bien dans ses derniers travaux comment effectivement des entrepreneurs ont été amenés, mais pas uniquement suite à des situations de violence, mais depuis 2001, à choisir de développer leur trajectoire aux États-Unis pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions de cohérence de la trajectoire, en gardant parfois l'entreprise du côté mexicain, mais en décidant de développer la résidence à San Antonio, dans les villes états-uniennes, notamment pour pouvoir se préserver d'un certain nombre de risques. Donc elle a fait un travail là-dessus récent, en se focalisant sur les artisans et les entrepreneurs, effectivement, qui est quand même la figure la plus représentée quand même, dans ton échantillon. Alors, moi, je me suis posé la question de s'ils demandent l'asile aux États-Unis, quelle est la première, quand tu les rencontres, pourquoi ils demandent l'asile aux États-Unis, en sachant le contexte qui fait que tu nous expliques très bien qu'il n'y a même pas 1% des Mexicains qui sont retenus avec ce statut d'asile. Donc, est-ce que c'est pas plutôt... ils ont un réseau familial et donc ils essayent... effectivement, ils ne veulent pas passer pour des migrants économiques, mais je me suis posé la question si effectivement ils veulent émarger à cette catégorie de l'asile et du réfugié, pourquoi ils s'adressent aux États-Unis dans les situations dans lesquelles ils traversent. Pourquoi, par exemple, ils ne sont pas allés vers d'autres pays d'Amérique du Sud. Parce que le Mexique est un des pays qui reçoit le plus de migrants, hein, cubains, colombiens, argentins, chiliens. Donc il y a des contreparties, hein, il y a des règles de réciprocité qui existent. Et donc pourquoi ces personnes n'ont pas eu envie ou de se rapprocher de ces pays-là. Alors l'autre point que je voulais voir avec toi, c'était les cas un peu plus ruraux. Est-ce que dans les cas ruraux que tu as observés, est-ce qu'effectivement l'économie, donc je me demandais, est-ce que l'économie familiale est encastrée dans une économie informelle qui était en lien, ou c'était une étape de passage de la circulation des drogues ou pas? Alors ça m'intéresserait de savoir en quoi les personnes de ces états-là du Tamaulipas se sont retrouvées eux-mêmes sur des circulations, puisque les fosses qu'on a trouvées avec les gens qui sont morts, c'était pas des migrants mexicains, c'était des migrants argentins, sud-américains, hein, qui avaient été à un moment donné, enfin, ce que j'ai compris de l'histoire, amenés sur les trajectoires en fait migrantes, à contribuer à faire circuler comme des mules un peu une économie informelle, une économie de la drogue, et qui se sont retrouvés dans des guet-apens et des situations. Donc j'aimerais bien comprendre un peu mieux sur cette histoire du Tamaulipas, comment effectivement les cas notamment des ruraux et des agriculteurs sont intégrés ou pas dans cette organisation de l'économie de la drogue. D'accord. Voilà, non mais ça c'est... Alors, l'autre point qui est très intéressant, c'est que, bon, comme vous savez tous, donc depuis 1964, il y a des entreprises états-uniennes qui s'installent au Mexique. Là, en fait, on a une espèce de recolonisation des États-Unis par le Sud, notamment de ces entreprises. Alors ça, ce que tu démontres d'entrepreneurs qui essayent de développer une filiale aux États-Unis, ça, je peux te le dire du côté des entreprises, en tout cas en chiffres, c'est absolument impressionnant le nombre d'entrepreneurs mexicains qui ont en fait ouvert une filiale qui existait avant au Mexique, avec des capitaux nord-américains ou japonais, etc., aux États-Unis, notamment pour défragiliser la situation de l'entreprise. Donc ce sont les maquiladoras qui se réinstallent de l'autre côté de la frontière. Donc là, on est dans une configuration tout à fait étonnante d'une recolonisation du sud des États-Unis par des entreprises mexicaines qui ont un temps été des entreprises nord-américaines avec des rachats de capitaux mexicains qui repartent s'installer aux États-Unis et produire aux États-Unis pour bénéficier également d'une main-d'œuvre mexicaine qui est installée de toute façon dans le sud des États-Unis. Alors, les dernières questions que j'aimerais bien te poser, je ne sais pas comment... est-ce que tu as pu un peu regarder cette question-là? C'est que tu positionnes en fait au début le chapitre en nous expliquant qu'en 2006, Calderón, le président mexicain, rentre au pouvoir, il s'habille en militaire et il déclare la guerre au narcotrafic. Alors, ça a été très très clair, hein, on est passé vraiment d'une économie d'organisation basée sur la militarisation notamment des États du Nord. Bon, maintenant, ça se passe dans les États du Sud, puisqu'en fait, la drogue s'est redélocalisée dans les États de Michoacán et Jalisco, qui sont au sud du Mexique. Mais ce qu'on se demande, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette guerre? Moi, je trouve que c'est très intéressant de regarder, parce que effectivement, les États-Unis ont reçu des réfugiés pendant très longtemps, notamment du Salvador, du Cuba, du Nicaragua, dans le cadre des guérillas, hein, de Colombie. Hein, et la Colombie, ce qui a été reconnu, c'était non pas la question de la guerre contre la drogue, mais ça a été bien la guerre en termes de guérilla urbaine, de guérilla civile. Et dans ces contextes-là, il y a des réfugiés qui sont venus de ces pays-là. Et effectivement, il semble bien difficile pour les Mexicains d'installer le flux d'organisation, une reconnaissance en tout cas d'un statut d'asile pour les Mexicains, alors qu'en fait, on n'est pas dans ces contextes du tout de guérilla urbaine. On est dans des formes, notamment, on a en plus un accord commercial qui notifie la circulation des produits depuis 1994, et notamment qui, on va dire, légalise, entre guillemets, la circulation de la drogue. Donc du coup, je me dis qu'est-ce qui serait intéressant, si tu peux rajouter un chapitre, peut-être une commande supplémentaire, mais sur guerre et violence, hein, parce qu'effectivement... je pense que c'est, on est dans, on voit bien qu'il y a une différence entre des migrants économiques, des migrants forcés et des réfugiés pour des questions de guerre interne. Et effectivement, je pense pas que les États-Unis reconnaissent actuellement qu'il y a une guerre au Mexique. Donc, du coup, je me dis que ça serait vraiment intéressant si tu peux mener une réflexion là-dessus, un petit chapitre en tout cas sur guerre et violence. Et est-ce que, quand on regarde l'histoire de la contrebande entre le nord du Mexique et les États-Unis, est-ce qu'on n'est pas dans une situation finalement assez stable ? Et les épiphénomènes, on va dire, de paix et de la frontière sont des tout petits moments, en fait. Est-ce que la stabilité, c'est pas justement ces épisodes de guerre, de trafic, de circulation de marchandises illégales et de circulation des personnes ? Est-ce que c'est pas ça, finalement, le modèle du nord-est du Mexique et du sud des États-Unis ? Est-ce que c'est pas ça qui a était le plus présent en fait dans cette région en fait du monde, et les courtes périodes en fait, on va dire, de stabilité, de non-circulation, de non-contrebande sont finalement des épiphénomènes dans l'histoire de cette région nord-est du Mexique et sud des États-Unis. Donc voilà. Et puis alors je suis allée regarder, j'ai fait un tout petit peu de bibliographie, mais il y a un texte, je ne sais pas si tu le connais, de Caroline Lantero sur l'européanisation des politiques d'asile en Amérique, qui me paraît être un texte très intéressant, parce qu'elle montre justement l'évolution du point de vue contextuel et juridique des statuts et de l'évolution des statuts, et comment le modèle des États-Unis et du Canada ont évolué d'ailleurs de façon assez différente, notamment ces dernières années, par rapport à la question de l'asile. Donc je me dis que ça serait intéressant. Donc il y a ce texte-là, plus le texte de Randy Willy Duby, si tu connais, sur immigration, race et sécurité à la frontière mexico-californienne, qui retravaille en fait ces catégories pour être peut-être un temps de réflexion dans l'état de l'art voilà, sur ces questions-là. Voilà, j'ouvre quelques questions. Il y en a peut-être, je ne sais pas comment ça marche.
Si tu veux commencer à répondre, après on prend les autres questions.
Ok, je peux faire, par exemple, d'abord te remercier pour la lecture du texte Delphine, et répondre, on va dire, choisir, voilà, c'est ça. Comment est-ce que j'ai sélectionné en fait les personnes? Bon, j'ai commencé bien évidemment par la technique de la boule de neige, on commence à regarder tout de soi, parce que bon, je suis pas du tout, je suis pas quelqu'un qui est en dehors du terrain, moi je fais partie, je vis en fait au Mexique, à Monterrey, donc c'est un phénomène qui m'a intéressé parce que j'ai moi-même réfléchi à un moment donné s'il fallait que je parte du Mexique. J'en ai eu envie en fait à un moment donné. Mes amis m'ont dit, toi qui as un passeport français, va-t'en. Et finalement, en fait, je suis restée. Donc j'ai plein de gens dans mon entourage qui avaient été dans cette situation-là ou qui connaissaient des personnes dans cette situation. Ce n'est pas très difficile de ce côté-là de commencer. Et puis ce qui a été important, c'est que ça puisse être représentatif, c'est-à-dire bon, pas seulement faire les filières en fait, que l'on connaît. Et ce qui a été plus difficile pour moi, c'est ça a été de trouver des personnes en dehors de mes réseaux, bien évidemment, et dans le milieu rural. Et j'y suis arrivée au début de l'année 2016, et ça a été une grande transformation en fait, de mon travail, grâce à des contacts. J'ai pu commencer à travailler à San Fernando et dans les villages en fait, du nord-est. Ça a complètement en fait, changé mon entendement que j'avais la situation. C'est de là que sortent les populations mobilisées. J'ai aussi compris quelque chose dont on ne peut pas parler là, qu'on ne peut pas tout mettre dans un texte, dans une présentation, mais la fonction du massacre, du massacre aussi dans cette guerre. C'est bien une guerre. Et c'est d'abord donc boule de neige dans mes réseaux, et puis après j'ai cherché à avoir une certaine représentativité. Donc pour le milieu rural, j'ai aussi beaucoup cherché au travers, je me suis installée l'été dernier en fait dans la vallée du Texas, de façon à chercher notamment des personnes qui étaient passées de façon illégale. Là j'ai pas développé, mais il n'y a aucune personne déplacée qui a franchi la frontière de façon illégale. J'ai essayé au niveau des associations. C'était franchement impossible, il n'y avait pas de cas en fait. Je n'ai pas du tout trouvé en fait, de cas de personnes qui aient croisé de façon légale. Moi, je pense tout simplement que quand on croise de façon illégale, il faut un capital. C'est quelque chose qui se prépare. Hein. C'est pas du jour au lendemain hein, qu'on croise le Rio Bravo. Faut avoir 30 000 pesos hein, pour pouvoir traverser. Ça se mobilise pas comme ça. Ce qu'il faut avoir en tête, et ça me permet de répondre à notre question, c'est que c'est un départ immédiat, les migrants forcés. On est traumatisé et on s'en va. Et c'est quelque chose d'absolument différent d'un migrant économique qui élabore une stratégie, qui se dit l'an prochain, pour pouvoir construire la maison, je vais faire ci, donc il faut que je demande, faut que je mette de l'argent de côté, puis je vais demander à mon beau-frère, puis j'irai voir l'usurier s'il veut pas me donner de l'argent, et je vais partir. Alors que là, c'est vraiment avec la peur, hein, je veux dire, on s'en va et on s'en va comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va pas en Amérique latine. C'est à côté ce qu'on a, c'est les États-Unis, c'est ça notre voie de sauvetage, et si on a le passeport, en fait, les gens qui peuvent hein, croiser la frontière, pfum, tout de suite, c'est dans leur idée, là-bas, c'est sûr de l'autre côté. Et c'est vraiment, on est dans la réaction immédiate, hein, c'est de la survie, en fait, vraiment. Voilà. C'est quelque chose de très différent, en fait, de la migration économique. Hein. Donc ça, c'est important que tu me fais la question pour que ça reste très clair, en fait. Et c'est une vraie différence, en fait. Hein. Alors, aussi en ce qui concerne les gens qui faisaient partie en fait de l'économie de la drogue. Alors, non, bien évidemment, en fait, toutes les personnes avec lesquelles j'ai participé, après tout le monde au Mexique, faisons partie de cette économie. Hein, qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Qui ne fait pas partie en fait du système de corruption au Mexique, j'aimerais le savoir. Tous d'une façon ou d'une autre, en fait, finalement, du plus bas de l'échelle au plus haut de l'échelle, tout le monde participe. C'est un système social, vraiment, on en fait tous partie, quoi. C'est pour ça que, quand je disais, les entrepreneurs aussi, il y a un moment donné, après, ils réfléchissent en étant là-bas, en disant qu'on était quand même bien, on en a tous participé, mais on n'a pas le choix. Il y a une coercion, vraiment, hein, qui s'exerce, hein, qui corrompt, en fait, qui corrompt les gens et qui fait qu'on est obligé de corrompre. Et qui est notre ancien ou avant ça, comme on dit au Mexique. Si tu ne corromps pas, tu n'avances pas, en fait. Donc ça, c'est toujours très compliqué. Mais l'économie de la drogue, non. Tout simplement, les personnes que j'ai... Et de toute façon, on ne le dirait pas. Donc ça, c'est un bien hein, aussi hein, de l'entretien. Si les gens avaient une relation directe, ils ne le diraient pas. Un cas que je trouve très intéressant, c'est un entrepreneur, en fait, qui avait, d'une part, une entreprise à Reynosa, dans le secteur énergétique, parce que j'en parle pas mal non plus, mais c'est une grande région du pétrole, de l'énergie, du gaz et du gaz shale. Hein, très grands investissements en ce moment qui sont en train de se faire là-bas. Donc ça arrange bien les gens que les villages soient vides, hein, dites entre nous. Voilà, parce qu'on va pouvoir accaparer du terrain pour récupérer du gaz shale avec du fracking. Donc c'est aussi une des réalités aussi de ce déplacement. Cette personne-là, avec donc cette entreprise en fait énergétique au Reynosa, et il avait commencé une entreprise de vente de voitures d'occasion à San Pedro Garza García, municipalité en fait très riche hein, de l'aire métropolitaine de Monterrey. C'est un côté très opportuniste hein, parce que tout simplement il y avait énormément de vols en fait à ma armée à ce moment-là pour récupérer les voitures, et donc les grosses voitures se vendaient aussi comme des petits pains, hein. Les personnes riches ne voulaient pas circuler avec leurs grosses voitures, et il m'a expliqué qu'à ce moment-là, il s'était enrichi d'une façon incroyable, parce que toutes les voitures des riches en fait, de Monterrey, il les revendait à Guadalajara, et il disait, mais comme je les aimais en fait, à ce moment-là, ces grosses voitures. Quoi. Donc il y a vraiment un effet opportuniste pour lui, comme bon commerçant à ce moment-là, et il s'est fait menacer, hein. On lui a demandé de payer en fait une quota de 100 000 pesos par mois, et puis il est tout de suite parti, hein. Il a tout de suite envoyé ses enfants, il a tout de suite compris, et il est parti aux États-Unis, et lui il a toujours sans trop de problèmes en fait une filiale hein, de sa société. Donc il y a bien évidemment que toute cette économie en fait, on va dire de la délinquance, hein, je ne sais pas comment
criminel,
tu peux criminel, voilà c'est ça. Et bien il en a largement profité, hein, je veux dire, à un moment donné. Donc voilà, ce serait le cas le plus proche, en fait, de qui en fait, en a profité. Après, c'est vrai que moi, je fais une des choses les plus difficiles, en fait, pour les populations qui sont déplacées, c'est ce qu'on appelle la revictimisation. On dit, les gens ont toujours tendance à dire, ouais, mais lui, ça lui est arrivé parce qu'il avait fait quelque chose. Et ils en souffrent énormément. Et c'est une façon, en fait, de se laver les mains pour sentir que soit, en fait, on est bien et qu'on est à l'abri de tout ça. Se construire un peu une capsule, c'est une question de survie pour les gens, de dire, oui, mais moi, il ne m'arrivera rien parce que moi, j'ai rien fait. Puis, si c'est arrivé, c'est qu'il a fait quelque chose. Et en fait, on participe à une stigmatisation, en fait, des autres. qui n'est autre que pour la survie en fait individuelle et à la revictimisation en fait des populations qui sont victimes hein, vraiment de et c'est vrai que c'est aussi important pour moi de montrer aussi toute la moralité quand même de ces personnes et de pas contribuer en fait à cette revictimisation que je discuterai dans un chapitre en fait du livre que je suis en train d'écrire. Donc voilà, il y a énormément de choses très intéressantes hein, sur tout ce que tu as dit, mais je crois que je voudrais laisser la parole un peu aussi aux autres.